Bonjour à tous. D'habitude, nous commençons à faire des commentaires, le ministère faisant des commentaires sur le temps, mais je ne vais pas faire de commentaires sur le temps. En disant cela, j'ai déjà fait un commentaire sur le temps qu'il fait, alors nous allons passer directement au message. Mais qui, parmi vous, aime marcher? Voilà beaucoup de mains qui se lèvent. Il y a différentes façons de marcher. La première consiste à faire de la marche un sport. Et vous voyez ces gens aux Jeux Olympiques, cette drôle de démarche qu'ils ont, ils la font comme un sport. D'autres le font pour les loisirs, vont dans les bois, font des randonnées de temps en temps. C'est un autre type de marche que vous pouvez apprécier. Mais la marche dont je veux parler maintenant est un peu différente. Il s'agit simplement d'aller d'un point A à un point B. Ce n'est qu'un simple type de marche. Maintenant, si vous pensez que vous avez votre Google, votre téléphone avec vous, votre smartphone, et que vous voulez aller du point A au point B, vous entrez la destination où vous êtes maintenant et où vous voulez être, et il vous donne généralement l'heure à laquelle vous arriverez. D'habitude, nous gardons cette petite icône en mode voiture, ce qui signifie que vous allez conduire jusqu'ici. Mais imaginez que vous passiez en mode marche. Vous l'avez probablement déjà fait par accident. S'il indique que la voiture vous prendra 3 heures et que, soudain, il vous faudra 24 heures pour marcher, vous commencez soudain à ressentir un sentiment d'insécurité. Tout à coup, vous commencez à ressentir un peu ce qui se passe. Mais tout le monde pense à ce à quoi j'ai commencé à penser lorsque, comme vous le savez, ma famille et moi-même, ma femme, avons été absents pendant une courte période. Nous rendions visite aux frères du Royaume-Uni et d'Europe, et nous avons beaucoup marché, beaucoup marché. À un moment donné, nous étions assis dans un aéroport et j'ai demandé, à votre avis, quelle distance avons-nous parcouru aujourd'hui? D'une gare à l'autre et d'un aéroport à l'autre. J'ai regardé mon smartphone et je me suis rendu compte qu'il était très intelligent de nos jours. Ils peuvent vous dire exactement quelle distance vous avez parcouru ce jour-là. Et j'ai dit, nous avons marché 5,4 km ou, pour ceux qui comprennent les miles, cela fait 3,2 miles rien que dans un aéroport. Nous avons donc beaucoup marché. Un peu avant notre visite, nous nous sommes promenés dans des villes comme New York, puis Londres, Amsterdam, Utrecht, Anvers et enfin Bruxelles et Bruges. Certains d'entre vous diront que les Anglais disent Bruges. Et vous vous demanderez peut-être ce que vous voulez dire. Es-tu tombé et t'es-tu fait un bleu? Non, c'est un bleu. Je parle de Bruges où les gens du pays disent Bruges. Cela signifie simplement pont. Nous avons donc beaucoup marché dans ces villes. Et quand on marche dans ces villes, on voit des milliers et des milliers de gens qui marchent dans les rues. Plein New York, Amsterdam, partout. À Amsterdam, il y a plus de gens à vélo. Probablement 50% des gens marchaient, les autres 50% sont sur leur bicyclette. Je n'ai jamais vu autant de gens à vélo de ma vie, mais ils vont aussi d'un point A à un point B, mais cela m'a fait réfléchir, tout le monde. J'ai commencé à me demander où allaient ces gens. On dirait que certains d'entre eux sont en train d'errer. J'ai commencé à me poser des questions avec un O sur l'errance avec un A. Ils se promènent simplement. Où vont-ils? Et j'ai commencé à me poser la question, que dit la Bible à propos de l'errance? J'ai recommencé à me poser des questions sur l'errance. Alors, allons-y, tout le monde. Et ce que j'ai trouvé est intéressant. Allons dans la Genèse. Genèse, chapitre 4, et nous ne prendrons que quelques versets. En regardant le contexte ici, dans Genèse 4, en vous tournant vers là, tout le monde, J'ai commencé à penser à l'errance. J'ai commencé à penser à l'errance, à ce que la Bible nous dit à propos des gens qui se promènent et qui errent. Où vont-ils? Quel est leur but? Genèse 4 et nous reprendrons au verset 12. Le contexte est celui de Caïn et d'Abel. Vous savez que Caïn, de manière assez intéressante, a été le premier homme que quelqu'un ou une mère, Ève, a vu naître. Imaginez cela un instant. Personne n'est né. Adam, Dieu l'a créé. Ève, Dieu l'a prise d'Adam, mais Caïn, lui, a été le premier homme que la mère a vu naître. Imaginez ce moment. Mais nous voyons ce que Caïn a fait. Finalement, il a tué son frère. Et Dieu lui a parlé, à tous, et il a reçu une punition pour avoir enfreint la loi de Dieu, pour avoir tué son frère, Dieu a dû distribuer une punition, pour ainsi dire. Et nous reprenons au verset 12. Il est dit, « Quand tu cultiveras le sol, Dieu s'adressant à Caïn, dit, « Quand tu cultiveras le sol, désormais tu ne produiras plus de force, ou il n'en produira plus. » C'est-à-dire que le fruit du sol, il ne pourrait pas produire ce qu'il a planté. Il cherchait du fruit et il n'y en avait pas. Il est intéressant de noter qu'il est dit ici, « Tu seras un fugitif et un vagabond sur la terre. » Un fugitif et un vagabond. Si vous regardez rapidement le verset 14, il est aussi question d'un fugitif et d'un vagabond. Et au verset 16, il est dit, « Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et il s'établit dans le pays de Nod, à l'Orient d'Éden. » Vous vous demandez peut-être où se trouve le mot « errance ». Nous l'avons vu trois fois dans les deux versets que nous avons lus, mais nous n'allons aborder que deux d'entre eux, et plus tard nous verrons où se trouve la troisième fois, mais les deux premières fois, il s'agit d'un fugitif et d'un vagabond. Si vous regardez l'hébreu, les deux peuvent signifier un vagabond. Frères et sœurs, à cause du péché de Caïn, Caïn a été séparé de Dieu. Il a été renvoyé de la présence de Dieu et il est devenu un vagabond sans repos. Il se déplaçait un peu comme certaines personnes que nous voyons et dont nous nous demandons où elles vont. La plupart des gens allaient au magasin dans les villes que nous avons vues, où ils allaient au travail, où ils allaient au restaurant ou au musée, mais certains d'entre eux, ils erraient simplement un peu comme Caïn est devenu un vagabond. Un vagabond est quelqu'un qui n'a pas d'itinéraire fixe. Il n'a pas de but. Il n'a pas de destination. Il est dans un état d'absence de but. Il voyage sans trouver de but. Il est spirituellement déconnecté, il cherche sans trouver. C'est un vagabond. Caïn et tous ses descendants après lui sont devenus des vagabonds sans repos. Pensez-y un instant. C'est votre punition. Dieu a dit, « Voici ta punition, tu deviendras un vagabond. » Tu deviendras un vagabond. Nous ne savons pas quel âge a atteint Caïn, mais imaginez que vous ayez entendu pendant plusieurs centaines d'années que vous ne serez qu'un vagabond sans repos pour le reste de votre vie. Cela faisait partie de sa punition d'entendre cela. Il n'a jamais été autorisé à se reposer. Il n'a jamais été autorisé à s'installer. Il n'a jamais eu le droit de s'enraciner. Frères et sœurs, le manque de repos est devenu une forme de punition pour Caïn, le manque de repos. Le repos est donc très, très important pour Dieu. Vous et moi le savons, mes frères. Aujourd'hui, nous allons donc explorer trois façons d'expérimenter le repos comme Dieu l'a voulu. Nous allons voir comment vous et moi pouvons faire l'expérience du repos comme Dieu l'a voulu pour nous. Reprenons le chapitre 4 de la Genèse, allons au chapitre 2. Il devint une merveille agitée. Il n'a jamais pu trouver le vrai repos. Mais il est important pour vous et moi, frères, de nous reposer. Dieu veut que nous nous reposions. Pour Dieu, Le repos est important. Nous verrons ici dans Genèse 2 et au verset 2, nous reprendrons au verset 1 pour le contexte, « Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toutes leurs armées. » Dieu acheva son œuvre, et au septième jour, Dieu acheva son œuvre, qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu s'est reposé. Il a travaillé et s'est reposé. Il a béni le septième jour et l'a sanctifié parce qu'en lui, il s'est reposé de toute son œuvre qu'il a créée et faite. Dieu s'est reposé le septième jour. Il aurait pu choisir de se reposer n'importe quel jour, mais il a d'abord travaillé six jours, puis il s'est reposé le septième jour. Il est dit au verset 3, « Il bénit le septième jour. » Pourquoi ? Parce qu'il s'est reposé de tout son travail. Dieu a donc travaillé, il a créé, puis il s'est reposé et il a connu la bénédiction du repos pour ce jour particulier. Toute cette journée où il s'est reposé. Puis il a décidé de le bénir. De le bénir pour qui ? Pour vous et pour moi. C'est une bénédiction pour vous et moi de pouvoir nous reposer. Frères et sœurs, Dieu a établi un modèle de repos. Vous et moi avons un modèle de repos. C'est une journée entière qui nous est donnée pour nous reposer. Nous travaillons, nous faisons toutes les choses que nous voulons faire, puis nous nous reposons. Et c'est une bénédiction pour nous de nous reposer. Pensez à tout ce que vous avez fait pour vous préparer à être prêt pour le jour du sabbat. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit tout au long de la semaine pour savoir que vous vous préparez pour le septième jour ? Et si vous vous êtes bien reposé la semaine dernière, peu importe ce que vous avez vécu le lundi, le mardi ou le mercredi, vous avez dans l'esprit ce schéma selon lequel vous vous reposerez à nouveau le septième jour. Cela devient un schéma dans votre esprit. Si l'on suit la voie de Dieu pendant de nombreuses années, on s'y habitue presque. Et Dieu voulait qu'il en soit ainsi, que le repos devienne une habitude dans votre vie. C'est important pour lui. Mais ensuite, ce que Dieu a maudit comme Caïn et le sol qu'il a maudit, finalement, quand il l'a maudit, il a forcé Caïn à devenir un vagabond. L'a-t-il fait physiquement ? Il lui a dit, « Tu vas devenir un vagabond. Tu vas devenir un vagabond. » Mais comment l'a-t-il fait ? Il a maudit le sol. Il n'a pas pu tirer du sol le fruit dont il avait besoin. Il a dû continuer à errer physiquement, sans jamais pouvoir se reposer. Mais vous et moi, nous avons reçu, mes frères, une bénédiction. Ce que Dieu maudit est maudit et ce qu'il bénit est béni. Il nous a donné cette bénédiction, un modèle, le septième jour que nous avons. Un modèle établi pour se reposer du travail. C'est tout simplement le sens de ce premier point, de cette première façon de connaître le repos. Et, frères, vous le savez très bien. Allons à Marc, chapitre 2, verset 27. C'est une merveilleuse façon pour nous de nous reposer. Il s'agit d'un modèle simple que nous suivons et que Dieu a établi. Ce modèle, il l'a établi comme une loi, et vous et moi le suivons en conséquence. Nous organisons notre vie, nous organisons toute notre semaine selon ce modèle. Marc, chapitre 2, verset 27, dit, « Il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est une bénédiction. » La bénédiction que Dieu nous a donnée de vivre ce jour, un jour de repos, est là pour notre bien. C'est l'occasion pour nous de grandir, de nous reposer physiquement, de nous ressourcer. Mais pensez aux impacts clés pour ceux qui ne se reposent pas. Pensez à la vie de Caïn. Il a manqué le premier sabbat, puis le deuxième, et il a passé des années et des années sans y être autorisé. Il a été coupé de Dieu. Il a été coupé de ce modèle que vous et moi expérimentons chaque semaine. Lorsque vous ne vous reposez pas suffisamment, vous commencez à avoir du mal à vous concentrer. Vous commencez à avoir du mal à résoudre les problèmes. On commence à avoir du mal à être créatif. Beaucoup de personnes créatives parmi nous ont probablement commencé à lutter contre cela, ainsi que leurs descendants. Vous risquez davantage de commettre des erreurs et des fautes, voire des accidents. Combien de personnes ont déjà eu un accident ? Je me souviens d'avoir conduit jusqu'à l'université tôt le matin lorsque j'y retournais. Je restais à environ 1h30 de l'université où j'étudiais. Parfois, je partais le lundi matin et je devais m'arrêter pour ouvrir la fenêtre parce que j'étais fatigué. Si vous partez tôt le matin et que vous êtes fatigué, que vous ne vous êtes pas suffisamment reposé, cela peut affecter votre capacité de jugement. Je me souviens avoir perdu un cousin de cette manière. Il est rentré de chez lui à la base où il était stationné, et il pense qu'il s'est endormi et qu'il a eu un accident. Voilà quelques-unes des conséquences d'un manque de repos. Pensez à l'augmentation du stress ou de l'anxiété. Ce sont des choses que vous et moi avons expérimentées par le simple fait que nous ne nous reposons pas toujours. Mais c'est quelque chose, mes frères, que nous regardons et pensons que Dieu nous a donné l'occasion de nous reposer. Qu'en est-il de la baisse d'énergie et de l'endurance ? Risque accru de vulnérabilité aux maladies. La liste est longue. Comme je l'ai mentionné, le jugement est altéré. Et dans des circonstances et des cas extrêmes, ils utilisaient parfois le manque de repos pour torturer les gens. Pensez-y également. Avec le temps, si vous ne dormez pas et que vous manquez de sommeil, c'est une forme de torture. C'était une forme de punition pour Caïn. Mais ceci, mes frères, pour nous, juste cette façon que vous et moi avons reçue, est un exemple que nous suivons chaque semaine. Maintenant, comment pouvons-nous rendre cela aussi simple que possible pour nous-mêmes à mesure que nous avançons? Tout simplement en nous souvenant du jour du sabbat. C'est une instruction simple qui nous a été donnée. Elle vient une fois par semaine. Vous avez cette anticipation. Comme je l'ai mentionné, si vous l'avez apprécié la semaine précédente et que vous faites votre travail, vous travaillez dur, vous faites tout ce que votre main trouve à faire chaque semaine ou chaque jour de la semaine, vous commencez à avoir cette anticipation, et vous n'oublierez pas qu'il s'agit de se reposer. Ce n'est qu'une façon, mes frères, de voir que Dieu nous a donné du repos. Vous pouvez avoir de nombreux messages sur le jour du sabbat, mais je voulais simplement passer en revue quelques points pour vous donner ce modèle établi que Dieu a suivi, et que vous et moi suivons également. Mais il y a un autre aspect, mes frères, un autre aspect que nous pourrions dire, qui nous fait nous sentir rafraîchis. Et au début, vous ne penserez pas que c'est une façon de se rafraîchir, mais vous verrez que c'est l'une des principales que nous allons aborder aujourd'hui, d'être rafraîchi. Se reposer. Bien reposer. Et tout cela vient de, et je vais y faire allusion. Passons maintenant au chapitre 11 de Matthieu. Cela fait partie de toute la marche que nous avons faite au cours de notre récente visite. Matthieu 11. Verset 28. Matthieu, chapitre 11, et nous reprenons au verset 28. Il est dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. » Nous arrivons tous à un point, physiquement et spirituellement parlant, où nous nous disons, « Je suis chargé, j'ai besoin de repos. J'ai besoin de repos, prenez mon joug sur vous. » Et apprenez de moi, nous verrons que nous pouvons apprendre de Christ. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre vie, pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est donc un seul verset. Je veux lier trois versets ensemble, mais en y réfléchissant, mes frères, Alors que nous exposons ce point, nous faisons cette remarque, une chose qui nous a frappé, ma femme et moi, lorsque nous avons voyagé et que nous avons dit que nous avions beaucoup marché. Je n'ai pas compté toutes les marches que nous avons faites, mais vous avez beaucoup marché en Europe, qui ne vous permet pas de conduire autant que de marcher. C'est probablement la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de personnes en surpoids. Les personnes que nous avons vues en surpoids étaient probablement celles qui, comme nous, ont visité les différentes villes. Mais les gens marchent beaucoup. Après une longue journée de marche, nous avions un endroit où aller, une chambre d'hôtel, où rendre visite à des frères et nous pouvions rompre le pain, nous asseoir et nous rafraîchir, prendre une douche, partager un repas et avoir une conversation à la fin de la journée, que ce soit ma femme et moi à l'hôtel ou lorsque nous étions en famille ou avec des frères, nous pouvions le faire. Vous me demanderez en quoi c'est une forme de repos, d'être rafraîchi par les relations. C'est le deuxième point, mes frères. Passons à Matthieu 18. Comment cela peut-il être un moyen de se reposer? Matthieu 18, des choses simples que nous vivons aujourd'hui, frères, des choses dont vous êtes déjà conscients, mais juste pour que nous les ayons à l'esprit, au premier plan de notre esprit, des moyens que Dieu nous donne pour expérimenter le repos de la manière qu'il l'a voulu. Le verset 20 de Matthieu 18, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Christ a dit dans le verset précédent que nous lisons que nous venions à lui et que nous mettions notre joue sur lui. Ici, dit-il, là où deux ou trois sont réunis, deux ou trois. C'est le contexte. Nous savons que c'est lorsqu'il y a des problèmes à régler entre frères, mais le principe s'applique là où il y a deux ou trois frères ensemble. S'il n'y avait que ma femme et moi ou des frères ou d'autres frères ensemble, le fait que nous soyons en communion fraternelle et que nous nous réunissions était un moyen de nous rafraîchir. Je pose à nouveau la question, comment est-ce possible? Passons au troisième verset de la première épître aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, et nous reprendrons au verset 11. Paul s'adresse ici aux Thessaloniciens, et nous pouvons lire le verset 10 pour le contexte, « Il est mort pour nous, afin que nous vivions avec lui, que nous soyons éveillés ou endormis. Consolez-vous donc les uns les autres, consolez-vous les uns les autres, et édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites vous-même. » C'est quelque chose, frères, que lorsque vous pensez au réconfort, cela signifie qu'ils invitent à l'une des significations du réconfort. Vous pouvez être réconforté en étant ensemble ou simplement en étant invité, et c'est quelque chose que nous avons expérimenté lorsque nous avons voyagé, que ce soit pendant le festin ou avant le festin. La façon dont les frères s'invitent les uns les autres, en fin de compte, pour se réconforter ensemble, cela signifie qu'il y a une forme de dans la communion, il y a quelque chose qui se passe entre vous. Quand vous avez une conversation, parfois vous n'en êtes même pas conscient. Vous pensez à quelque chose qui vous préoccupe ou vous vous sentez mal à l'aise dans une certaine situation, puis vous invitez quelqu'un. Vous prenez un repas après le service du sabbat ou pendant le service, pendant la fête, partout où vous vous réunissez et partagez un repas ou avez une conversation, une communion fraternelle. Cet échange que vous avez les uns avec les autres est une forme de réconfort mutuel. Cela signifie que vous donnez et que vous recevez à travers cette conversation, que vous pouvez être réconforté, que vous pouvez recevoir le repos à travers cela. C'est une façon de se reposer. Pensez à vivre les services du sabbat après un repas ou à aller au restaurant après une conversation. Avez-vous déjà eu l'impression, en rentrant chez vous, de vous asseoir, de vous détendre et de penser aux conversations qui vous ont aidé? Oh, cela m'a aidé à résoudre le problème que j'avais. J'avais ce problème, maintenant je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Ce sont les conversations que les frères ont entre eux. Et je veux me vanter de vous, mes frères. Pas seulement vous dans cette salle, mais tous ceux qui entendront ce message, continuez à le faire. J'ai vu comment les frères font cela et l'effet que cela a, j'en suis sûr, est positif pour tout le monde. Les conversations, le fait d'être proches les uns des autres pour s'inviter mutuellement et se réconforter, sont un moyen de se reposer. Il peut s'agir d'un commentaire direct ou indirect que quelqu'un fait et qui vous aide. Cela vous aide à ressentir ce réconfort, ce soulagement du stress, ce problème qui est soudainement résolu dans votre vie. Mais il y a, mes frères, un autre type de repos que nous devons expérimenter. Trois façons simples d'expérimenter le repos, mes frères, et cela dans nos relations avec Dieu et les uns avec les autres. De quel type de repos s'agit-il? Revenons à Genèse 4. Nous nous reposons dans le fait que nous avons ce modèle que Dieu nous donne chaque semaine, pour nous reposer, pour nous réunir, pour la communion fraternelle, pour être fortifiés par nos conversations. Continuez à le faire, mes frères. Trouvez des moyens de le faire encore plus. Parfois, si vous vous sentez seul, invitez quelqu'un qui peut vous aider à résoudre certains problèmes. Si vous n'abordez pas nécessairement le problème directement, le simple fait d'être ensemble et de se réconforter mutuellement est une merveilleuse façon de le faire. Allons, comme je l'ai dit, au chapitre 4 de la Genèse, et nous lirons le verset 16. Vous vous souvenez que j'ai mentionné qu'il y a trois façons, les deux que j'ai déjà mentionnées, que Caïn est devenu un vagabond agité. Il n'avait pas le droit de se reposer. Ici, au verset 16, il est dit, Caïn sortit, nous le lisons à nouveau, de la présence de Dieu. Il a été coupé de Dieu. Son péché l'a coupé de Dieu. Il habita dans le pays de Nod. Beaucoup d'entre vous ont peut-être l'impression de s'assoupir en entendant le mot Nod, mais ce n'est pas ce qu'il signifie. Le mot Nod, le pays de Nod, signifierait. Caïn voulait donc s'installer. Il voulait certainement s'installer. Il voulait construire des villes. Nous savons qu'il a construit des villes et qu'il s'est finalement installé, mais le mot qui désigne le pays où il a été envoyé est errant. Cela signifie que cela faisait partie de sa punition, qu'il est devenu un vagabond sans repos. Il ne s'est jamais reposé. Dieu décrit cela à un autre endroit dans Jude. Il dit que c'est la voie de Caïn. Or, vous et moi avons été appelés à marcher et à vivre d'une manière complètement différente, et nous marchons et vivons déjà de cette manière. Allons à Genèse 5, verset 29. Genèse 5 et verset 29. En parcourant le. Si vous regardez au verset 1, il est dit, Dieu créa l'homme à sa ressemblance, et il est question de la généalogie d'Adam et d'Ève. Nous arrivons au verset 29, et il est dit, il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de notre travail et du labeur de nos mains, à cause du sol. Dieu a maudit le sol, et il n'a pas produit de fruits, comme nous l'avons lu dans l'histoire de Caïn. Mais Dieu a appelé Noé. Noé avait un but. Son nom, tout comme le pays de Nod, nous a montré de quoi il s'agissait. Il s'agissait d'Ré. Le nom de Noé nous dit quel était son but, et nous l'avons déjà lu. Il s'agit de réconforter et de donner du repos. C'est ce que son nom signifiait. Il a rempli sa mission. Il a donné à ceux qui ont traversé le déluge. Il a construit l'arche avec beaucoup d'aide, et il a rempli sa mission. Il a donné le confort et le repos. Ces deux éléments sont liés, le confort et le repos. Noé a donné, mes frères, du réconfort à ceux qui ont traversé le déluge concernant la punition de Caïn. Vous et moi, mes frères, nous avons aussi un but. Nous savons que nous avons été appelés dans un but précis. Passons à la deuxième lettre de Timothée. Vous et moi avons un but. Nous avons un but. Nous avons reçu un but dès le début. Deuxième Timothée, chapitre 1, et nous reprendrons au verset 9. Qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, pas en fonction de nos œuvres. Lorsque Dieu nous a appelés, il ne nous a pas regardés en disant « Je veux te choisir à cause de ce que tu as fait ». Il a dit ici, au verset 9, « Alors que nous continuons, selon vos œuvres, mais selon le dessein et la grâce qu'il nous a donnés dans Christ Jésus avant le commencement du monde. Avant même le péché de Caïn, Dieu avait un but pour vous. Il avait un but pour Noé. Mais nous sommes ici, et vous et moi avons été appelés à avoir aussi un but. Combien de fois y pensons-nous? Maintenant que vous le savez, les élections ont eu lieu récemment et l'un des analystes a dit, ce qui m'est resté à l'esprit, que le président élu qui a remporté la présidence, tout au long de sa campagne, a dit que l'une des raisons pour lesquelles il a gagné, c'est qu'il a été capable de s'en tenir à son message, de s'en tenir à un objectif simple. Il avait un objectif et il a été capable de transmettre ce message à plusieurs reprises, du début à la fin. Nous aussi, frères, nous avons un but. Dieu nous l'a donné. Nous comprenons notre but. En comprenant votre vocation et la mienne, nous sommes en paix avec Dieu et avec les autres, comme nous l'avons vu avec tout le monde. Le but est de trouver le repos intérieur. Si nous comprenons notre but, notre appel, notre objectif, et que nous sommes en paix avec Dieu et avec les autres. Le troisième point est d'expérimenter le repos, ce repos intérieur, d'avoir la paix intérieure. C'est une autre façon, la troisième façon dont vous et moi devons faire l'expérience du repos. La paix, le confort et le repos à l'intérieur de soi. Pas seulement le repos physique du travail pendant la semaine ou le repos que nous recevons par la communion avec les autres, mais cette paix intérieure dont vous et moi avons besoin, mes frères, et qui est si importante. Passons au psaume 34. Ces trois points sont interconnectés et importants, mais celui-ci, le troisième, est parfois un peu plus difficile. Nous avons besoin de ce type de course, mais cela ne vient pas tout seul. Tout comme les autres points, nous devons travailler pour eux. Le psaume 34, verset 14, dit « Éloignez-vous du mal et faites ce qui est bien ». C'est une chose que Caïn n'a pas faite. Il ne pouvait pas discerner entre le bien et le mal à ce moment-là. Il est dit ici, cherchez la paix et poursuivez-la. C'est une chose que vous et moi devons faire, c'est rechercher et poursuivre la paix dans nos vies, cette paix intérieure qui nous aidera à connaître le repos en soi. Frères et sœurs, Satan et la société se lient contre nous pour nous priver du repos, de ce type de repos intérieur. Rejeter cette piscine intérieure, Caïn ne pouvait pas le faire, il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, vous et moi, nous sommes capables de rejeter, d'éliminer ce bassin intérieur, comme le dit David ici, de nous éloigner du mal et de faire ce qui est bien. Nous avons déjà examiné les choses que nous pouvons faire qui sont bonnes. Mais au quotidien, chaque fois que nous faisons ce qui est bien, que nous rejetons ce qui est mal, nous nous engageons sur la voie de la recherche de la paix, de la tranquillité et du confort, non seulement avec Dieu, mais aussi en nous-mêmes. Passons à Philippiens 4. Philippiens 4 et nous reprendrons au verset 4. Nous nous efforçons de faire ce qu'il faut chaque jour en attendant le jour du sabbat, mais qu'en est-il de ces 6 jours que nous traversons avant d'arriver au repos que nous connaissons aujourd'hui? Le verset 4 de l'épître aux Philippiens dit, Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et je répète, réjouissez-vous. Que votre modération soit connue de tous, car le Seigneur est proche. Ne vous souciez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, et avec des actions de grâce, nous approchons de Thanksgiving, dans quelques jours ici en Amérique du Nord, aux États-Unis, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées par Jésus-Christ. Comment voyez-vous la paix qui surpasse toute intelligence? Frères et sœurs, mettez chaque être humain dans la situation où se trouvait Caïn sans l'Esprit de Dieu. Dans un monde où nous devons lutter contre Satan, contre nous-mêmes et contre la société, cette personne deviendra à chaque fois un vagabond agité. Mais vous et moi, si nous voyons un frère ou une sœur, un collègue dans une situation difficile, qu'ils aient la paix. Quand il y a des troubles autour d'eux, comme quand nous avons marché dans les villes où nous avons marché et que vous avez traversé certaines choses ou qu'il y a des gens qui traversent certaines choses ou qu'il y a des choses que les gens combattent dans leur esprit, pensez aux choses auxquelles vous faites face chaque jour, toute la semaine, ces luttes que vous traversez. Si vous pouvez avoir la paix en vous-même chaque jour, c'est une façon de montrer la paix de Dieu. Ce n'est pas votre paix, c'est la paix qui vient de Dieu. C'est cette paix qui n'apporte pas de compréhension ou que les gens ne peuvent pas comprendre. Ils voient que vous êtes différent. Votre réponse est complètement différente dans cette circonstance. Lorsque l'agitation règne autour de vous, cela montre que la paix de Dieu est à l'œuvre en vous. C'est une raison d'être reconnaissant. C'est une raison de se réjouir. Passons aux Colossiens, quelques versets plus loin. Quelques chapitres, un livre différent pour ainsi dire, mais juste quelques pages. Colossiens 3, tout le monde, verset 15. Il est dit, que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. C'est l'instruction que nous avons reçue, qu'elle doit régner dans nos cœurs. Ce à quoi vous avez été appelés. Nous avons été appelés. Nous comprenons notre appel. Nous comprenons notre but. Nous comprenons en partie que Dieu nous a appelés à avoir la paix en nous-mêmes. C'est quelque chose de difficile à faire, mes frères. Nous avons été appelés à le faire. Comment y parvenir? Comment trouver la paix qui règne dans votre esprit? Comment y parvenir? Appliquez les deux premiers points dont j'ai déjà parlé. Le jour du sabbat que nous avons. Ce modèle que Dieu nous a donné, suivez-le. C'est une façon de faire. Une autre façon de le faire est de suivre le deuxième point. Trouvez du réconfort entre frères. Les relations que vous avez déjà, renforcez-les. C'est une façon d'apporter la paix en vous. La troisième, que nous avons déjà lue dans Matthieu, est de confier vos problèmes à Dieu par la prière. C'est très, très simple. Cela apportera la paix en vous, mes frères. Celui qui est si insaisissable, Dieu dit que vous devez le poursuivre, que vous devez courir après lui. Quel est le contraire d'un vagabond agité? Nous l'avons déjà examiné, mes frères. Nous pouvons regarder notre vie. La vie que Dieu nous a donnée. Le modèle qu'il nous a donné pour observer le sabbat. Passons au psaume 140 pour conclure. Psaume 140. J'ai trop de signés dans ma Bible pour tourner ici. Vous y êtes déjà. Psaume 140. Je finirai par y arriver et nous reprendrons. Et au verset 13. Il est dit, le juste rendra grâce, nous avons déjà lu plusieurs fois que vous et moi rendions grâce. À ton nom, les hommes droits habiteront en ta présence. Caïn n'était pas autorisé à entrer dans la présence de Dieu. Nous lisons qu'il a été mis à l'écart de la présence de Dieu. Vous et moi, mes frères, Sommes en sa présence. Il est dit que demeurer, c'est loger. Ma femme et moi, lorsque nous logeons, nous sommes si reconnaissants. Parfois, tard dans la nuit, vous arrivez à votre gîte, où est la douche? Où est l'endroit où je peux me reposer? Vous et moi pouvons nous reposer en Dieu. Nous nous reposons dans sa parole. Nous nous reposons dans son mode de vie. Nous nous reposons en appliquant les points que nous avons déjà mentionnés aujourd'hui. C'est trouver une demeure. Tous les mots « habiter » peuvent signifier « se reposer ». Dans la présence de Dieu, vous ferez l'expérience de ces trois façons de vous reposer, mes frères. C'est ce qu'il nous a été donné de penser à l'inverse, qu'est-ce que la vie d'un agité? Et nous avons reçu un grand, un très grand privilège. Passons aux deux derniers versets du psaume 91. Il s'agit de vous et moi faisant de Dieu notre réfugié. Son mode de vie, notre lieu d'habitation. Nous pouvons le faire. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous sommes en paix les uns avec les autres. Nous avons la paix en nous. Et nous pouvons lire le psaume 91, qui dit « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. » Il dit « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant, la protection de Dieu. » Qu'un ne pouvait pas bénéficier de cette protection. Vous et moi l'avons. Je dirai à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Il se délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste bruyante. Il te couvrira de ses plumes. Ressentez-vous cela, mes frères, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, lorsque vous vous reposez pour le sabbat, lorsque vous étudiez la Bible, lorsque vous êtes ensemble en tant que peuple de Dieu et que vous conversez, que vous êtes en communion, vous ressentez ce repos et vous savez que, grâce à ce que nous faisons, nous pouvons en faire l'expérience. Cette protection. Tout comme une mère poule protège ses poussins, Dieu nous protège, vous et moi, à travers les choses que nous faisons. C'est ce type de repos que nous expérimentons. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour. Nous sommes protégés des choses qui se passent à l'extérieur. Ni de la peste qui marche dans les ténèbres. À un moment donné, alors que ma femme et moi marchions, un pickpocket a essayé de lui voler son portefeuille qu'elle portait autour du cou et dans lequel se trouvaient son passeport et sa carte verte. Imaginez qu'il ait pu le prendre, elle n'aurait pas pu voyager. Dieu nous a protégés. Il l'a protégée. Des milliers de personnes tomberont sous tes yeux, des dizaines de milliers à ta droite, mais tu ne les verras pas. Ce n'est que de tes yeux que tu verras la récompense des méchants, parce que tu as fait de l'Éternel, mon refuge, du Très-Haut, ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau ne t'approchera, car il donnera à ses anges le soin de te surveiller et de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, de peur que tu ne heurtes tes pieds contre la pierre. Tu marcheras sur le lion, sur la vipère, sur le lionceau, et tu marcheras sur le dragon. Pourquoi? Parce qu'il a mis sur moi son amour. C'est pourquoi je le délivrerai. Je l'élèverai sur les hauteurs, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Il sera avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et l'honorerai d'une longue vie. Je le rassasirai et lui montrerai mon salut. C. Frères et sœurs, la simple lecture de ce psaume devrait vous apporter réconfort et repos. Reprenez ce soir ce psaume et lisez-le en tenant compte des points que nous avons soulevés aujourd'hui. Frères et sœurs, la punition de Caïn, cette horrible punition qu'il a reçue, a eu pour résultat un monde agité et merveilleux. Mais vous et moi, Mes frères, nous comprenons, nous vivons et nous connaissons le repos selon le modèle que Dieu a établi pour nous, ce modèle de 7 jours que nous suivons, que nous anticipons chaque semaine, ces occasions que nous avons de nous réunir pour construire ces liens entre nous et finalement, mes frères, pour comprendre notre but, pour savoir que si nous suivons notre but et que nous sommes à la recherche de la paix intérieure, cette paix à laquelle Dieu nous a appelés, ces 3 points, vous et moi connaîtrons finalement le repos comme Dieu l'a voulu.